Isabelle leva vers son cousin ses beaux yeux bleus, et D'Artois cette fois sentit qu'il avait touché juste. Isabelle était définitivement de son côté. « Avez-vous les noms de... des hommes auxquels mes belles-sœurs... » Elle n'avait pas le langage cru de son cousin et se refusait à prononcer certains mots. « Je ne peux rien faire sans cela, » poursuivit-elle. « Obtenez-les, et je vous promets bien alors de me rendre aussitôt à Paris, sous un quelconque prétexte, pour y faire cesser ce désordre. « En quoi puis-je vous aider ? Avez-vous prévenu mon oncle Valois ?»«
Je m'en suis bien gardé, » répondit D'Artois. « Monseigneur de Valois est mon plus fidèle protecteur et mon meilleur ami. » Mais il ne sait rien taire, il irait clabauder partout ce que nous voulons cacher, il donnerait l'éveil trop tôt, et quand nous voudrions pincer les ribaudes, nous les trouverions sages comme des nonnes.
Que proposez-vous ?
Deux actions, dit D'Artois. La première, c'est de faire nommer auprès de Madame Marguerite une nouvelle dame de parage qui soit toute à notre discrétion et qui nous puisse renseigner fidèlement. J'ai pensé à Madame de Comminges, qui vient d'être veuve, et à qui l'on doit des égards. Pour cela, votre oncle Valois va pouvoir nous servir. Faites-lui tenir une lettre lui exprimant votre souhait. Il a grande influence sur votre frère Louis et fera promptement entrer Madame de Comminges à l'hôtel de Nesle. Nous aurons ainsi une créature à nous dans la place. Et, comme nous disons entre gens de guerre, un espion dans les murs vaut mieux qu'une armée dehors.
Je ferai cette lettre et vous l'emporterez, dit Isabelle. Ensuite ?
Il faudrait dans le même temps endormir la défiance de vos belles-sœurs à votre endroit et leur faire douce mine en leur envoyant d'aimables cadeaux, poursuivit D'Artois. Des présents qui puissent convenir aussi bien à des hommes qu'à des femmes et que vous leur feriez parvenir secrètement sans en avertir ni père ni époux comme un petit mystère d'amitié entre vous. Marguerite pille sa cassette pour un bel inconnu. Ce serait vraiment malchance si, la munissant d'un présent dont elle n'aura point de compte à rendre, nous ne retrouvions notre objet à graffer sur le gaillard que nous cherchons. Fournissons-les d'occasion d'imprudence.
Isabelle réfléchit une seconde, puis elle frappa des mains. La première dame française parut. « Mamie, dit la reine, veuillez quérir cette aumônière que le marchand Albizzi m'a mandée ce matin. » Pendant la brève attente, Robert d'Artois sortit enfin de ses machinations et de ses complots et prit le temps de regarder la salle où il se trouvait. Les fresques religieuses peintes sur les murs, l'immense plafond boisé en forme de carène. Tout était assez neuf, triste et froid. Le mobilier était beau, mais peu abondant.
« Ce n'est guère riant le lieu où vous vivez, ma cousine, » dit-il. « On se croirait plutôt dans une cathédrale que dans un château. »«
Plaise encore à Dieu, » répondit Isabelle à mi-voix, « que ceci ne me devienne pas une prison, comme la France me manque souvent. » La dame française revint, apportant une grande bourse de soie, brodée au fil d'or et d'argent de figures en relief et ornée au rabat de trois pierres cabochons grosses comme des noix.
« Merveille !» s'écria D'Artois. « Tout juste ce qu'il nous faut. Un peu lourd pour être parure de dame, un peu léger pour moi. À qui une giberne sait mieux qu'une bougette ? Voilà bien l'objet qu'un jouvenceau de cour rêve de s'accrocher à la ceinture pour se faire valoir.
« Vous allez commander au marchand Albizzi deux autres aumônières semblables, » dit Isabelle à sa suivante, « et le presser de me les envoyer. » Puis, quand la dame de parage fut sortie, elle ajouta, « Ainsi pourrez-vous, mon cousin, les rapporter en France, et nul ne saura qu'elles auront passé par mes mains. » On entendit du bruit à l'extérieur, des cris et des rires. Robert d'Artois s'approcha d'une fenêtre. Dans la cour, une équipe de maçons était en train de hisser une lourde clé de voûte. Des hommes tiraient sur des cordes à poulies, d'autres, juchés sur un échafaudage, s'apprêtaient à saisir le bloc de pierre, et tout ce travail semblait s'exécuter dans une extrême bonne humeur.
« Eh bien, » dit Robert d'Artois, « il paraît que le roi Édouard aime toujours la maçonnerie !»
Il venait de reconnaître parmi les ouvriers Édouard II, le mari d'Isabelle, assez bel homme d'une trentaine d'années, aux cheveux ondulés, aux larges épaules, aux hanches souples. Ses vêtements de velours étaient souillés de plâtre.